Bon matin tout le monde. C'est toujours un privilège d'être avec vous à Sainte-Marie. Je le rappelle à chaque fois que je suis ici, mais la première assemblée auquel je suis venu dans ma vie, c'est quand même ici. Donc, grâce à André et mon frère. Donc, c'est toujours un plaisir de revenir. J'étais un peu stressé d'être en avant quand même, mais ça... c'est bon, hein, Mario? Parfait. Puis, on est dans Philippiens, nous autres, à Sainte-Foy, depuis un bout de temps. En fait, on est dans les épîtres qu'on appelle de captivité. Là, il y en a quatre. Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon. Fait que Dieu voulant, on a déjà fait Éphésiens. On est dans Philippiens, puis on devrait poursuivre. Et c'est pour ça que j'ai appris que c'est Guillaume la semaine prochaine qui va être là. Et il va avoir, à moins d'avis contraire, un message sur Philippiens qu'on a eu la semaine passée, un message qui était excellent. Donc, dis pas que j'ai dit ça, là, mais il était très bon, son message. Ouais. Donc, ce matin, donc, on est dans Philippiens 3. Les versets 14 à 21. Donc, Philippiens 3, les versets 14 à 21. Puis, pendant que vous y tournez, le titre que je mets au message ce matin, c'est « Courir vers le but ». Donc, « Courir vers le but ». Puis, je vais faire un petit contexte avant qu'on lise le passage. Nous, on est fluide, dans ça, pas fluide, mais on se suit à chaque dimanche ou à peu près. Mais comme vous, peut-être, vous n'avez pas exactement, peut-être que Jean-Paul est venu il n'y a pas si longtemps, mais peut-être qu'il y a des morceaux de l'histoire que vous n'avez pas nécessairement. Donc, je fais un petit contexte pour ramener des choses importantes, en particulier pour le message qu'on a devant nous ce matin. Mais je vais juste rappeler qu'au début du chapitre 3, Paul mentionne qu'il faut se réjouir. Puis d'ailleurs, en fait, c'est un thème pas mal central dans l'Épître aux Philippiens, l'idée de se réjouir en toutes circonstances. Au début, verset 1 du chapitre 3, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Donc, c'est un thème de base dans Philippiens, se réjouir en toutes circonstances, même si c'est difficile. Ensuite, tout de suite au verset 2, chapitre 3, Paul, puis ça met un peu le contexte, puis je lis le verset, qui est quand même assez, en tout cas, ça dit ce que ça veut dire. « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. » Donc, c'est des termes assez forts. Puis c'est important dans le contexte parce que dans le passage qu'on va lire ce matin, il y a aussi l'aspect des ennemis de la croix. Donc, ces personnes-là, en fond, c'est certainement des personnes qui se font nommer comme ça, assurément, sont des ennemis de la croix aussi. Donc, on va revenir là-dessus. Puis Paul lui-même, dans le chapitre 3, va dire qu'il aurait eu l'occasion, dans ce qu'il était avant de venir au Seigneur, il aurait pu se vanter de ce qu'il a fait, de ce qu'il est, mais il ne fait pas finalement. Puis il va dire au verset 7 et 8, mais ces choses, donc il regarde ce qui était avant, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc, c'est l'état de pensée de Paul quand même, ce qui était avant. Et oui, il pourrait se vanter, mais ce qu'il a fait avant, maintenant, regarde ça comme de la boue, regarde ça comme des pertes. Parce qu'il connaît le Seigneur de plus en plus maintenant. Donc, c'est intéressant quand même comme référence, puis d'avoir ça aussi à nous dans nos pensées. Puis après ça, il y a l'idée d'une course. Souvent, dans les épîtres de Paul, il va faire référence à la marche chrétienne. On entend souvent parler, il faut venir au Seigneur, parce qu'il faut marcher avec le Seigneur. Dans le chapitre 3 de Philippiens, on a l'idée d'une course. C'est la même idée. On court vers quelque chose. Et ça nous amène au passage qu'on a ce matin, que je vais lire, donc, à partir du verset 14. « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez des regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux. Nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Alors que le Seigneur bénisse sa parole, puis qu'on trouve des choses, comme on a dit tantôt, pour être transformés dans nos vies. Ce matin, ce n'est pas un texte qui est le plus simple. Quand on lit une première fois comme ça, ce n'est pas le plus simple. Mais mon rôle ce matin, c'est de vous le simplifier et qu'on retienne quelque chose de ça. Donc, comme je disais, on a l'idée d'une course au verset 14. Puis d'où le titre aussi, « Courir vers un but ». Mais c'est quoi le but? C'est quoi le prix? C'est, mettons, on y réfléchit quelques secondes ensemble. C'est quoi notre but là, comme chrétien, notre but dans la vie? C'est quoi le prix? Normalement, quelqu'un qui court, c'est un sport quand même, la course, quelqu'un qui court, il y a des objectifs. Il va connaître probablement le sentier sur lequel il va courir, la distance, le temps que ça va y prendre. Il y a quand même des objectifs, quelqu'un qui court. Mais nous, comme chrétiens, c'est quoi le but? On l'a au verset 14. Le but, c'est de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est le but de la course du chrétien. Le mot vocation, ce n'est pas un mot qu'on utilise à tous les jours. Là, des fois, je le disais à Annie, c'est une vocation à être infirmière, c'est une vocation. Elle me disait non, c'est une profession. Mais une vocation, puis c'est quoi la définition de vocation? Ça vient du Larousse. C'est intéressant. Destination privilégiée ou naturelle de quelqu'un. Acte par lequel Dieu prédestine tout homme à un rôle déterminé. Donc, il y a l'idée d'une destination, notre vocation, là, la course qu'on a, là, c'est courir vers une destination qui est le ciel pour nous. Si le Seigneur nous attend là, la durée de notre course est différente pour tout le monde. Ma course va durer peut-être beaucoup moins longtemps qu'une autre. C'est notre vie, un peu, la course. Est-ce qu'elle va être sinueuse, il va y avoir des côtes dedans, des courbes, on ne le sait pas, mais on a chacun une course à faire. Mais le but de ça, la destination, la vocation céleste, c'est une destination. Dans la définition, on a aussi l'idée de prédestiner. On a un rôle déterminé aussi, ce faisant, puis on aura un rôle aussi quand on sera avec le Seigneur. Donc, c'est ça le but de ma vie chrétienne, cette destination-là que Dieu a en réserve pour nous, en réserve pour moi aussi. Puis, cette perfection-là qu'on cherche, on va l'avoir un jour. Cette vocation-là céleste, une maturité spirituelle, on va l'avoir un jour. On ne l'a pas ici. En attendant, on court vers ce but-là. Essayer de se conformer à ses exigences, avoir un rôle, puis de... On essaye, mais un jour, on aura atteint la destination, puis on aura un nouveau corps, comme on a lu, et je vais y revenir aussi. On aura une communion parfaite avec lui aussi, quand on sera au ciel. Puis, c'est une course qui n'est pas contre les autres. Puis, en fait, quelqu'un qui court aussi là, dans la vie, je me suis inscrit des fois dans des courses, c'est sûr que tu n'es pas le premier. Quand tu as des milliers de personnes, tu ne gagneras pas, mais tu as des objectifs avec toi-même. L'idée, ce n'est pas une course contre les autres, c'est ma course. C'est ma vie, c'est ma course. On a chacun une course personnelle à faire. Notre destination, le prix qui est au bout, on a une vocation céleste, mais on a ses seigneurs, c'est grandiose, mais ils ne voient pas comme une masse d'individus, ils voient chacune des personnes. On a chacun une marche chrétienne, chacun une course qui nous amène jusqu'à lui. Donc, c'est le but de ma vie, le but de ma course. Et comment qu'on fait ça? Remporter le prix, la vocation céleste de ma vie, de ma course. On fait ça en trois choses qui sont énumérées dans le passage. Ça va être les trois parties aujourd'hui. On imite des bons modèles. On fuit des ennemis de la croix. On veille au retour du Seigneur. Donc, c'est les trois éléments que Paul mentionne ici. Donc, on va suivre des bons modèles ou être influencé par des bons modèles, comme Paul. On va fuir les ennemis de la croix, puis on veille sur le retour du Seigneur. Donc, c'est les trois parties du message ce matin. Donc, la première partie... Donc, j'ai appelé « imiter des bons modèles » ou « être influencé positivement par des modèles », si on veut. Je vais relire les versets 15 à 17. « Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs. » Et c'est là l'idée de la partie ici, là. Frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc, Paul est un modèle, puis le « nous » ici, ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres personnes. Une personne qui est consacrée à Christ peut nous servir de modèle, peut nous influencer positivement. Puis au verset 15, selon la traduction que vous avez, vous savez, ça vient du grec, donc des fois, il y a des petits mots différents, puis on a l'expression, moi, ce que j'ai lu, c'est « nous qui sommes des hommes faits ». Si vous avez, moi je lis souvent dans la 1910, une Bible qu'André m'a donnée, celle-là aussi d'ailleurs, dans la 1910 ou dans Darby, c'est l'idée de « nous qui sommes parfaits ». C'est un peu intense, « nous qui sommes parfaits ». La seconde 21, « nous qui sommes mûrs », dans une autre traduction, « nous qui sommes matures ». L'idée ici, c'est l'idée de maturité spirituelle. Fait que « nous qui sommes matures spirituellement ». ce serait la bonne façon de le comprendre, parce que l'idée d'être parfait. Puis d'ailleurs, quelqu'un qui est mature spirituellement va savoir qu'il n'est pas parfait. Quelqu'un qui pense qu'il est rendu parfait, c'est probablement un signe qu'il manque quelque chose, justement. Paul est mature spirituellement, on s'entend là-dessus. Mais lui-même est le premier à dire qu'il n'est pas parfait. Je vais relire juste le verset 12. Le verset 12, c'est Paul ici qui mentionne, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Donc, c'est une caractéristique quand même de quelqu'un qui est mature spirituellement, de reconnaître que justement, il n'est pas parfait. Puis, j'ai noté un petit commentaire. Bien, en fait, quelqu'un qui est mature spirituellement aussi, c'est quelqu'un qui va regarder le monde de point de vue de Dieu, si on veut. Ça, c'est une façon d'être plus spirituel. C'est comment Dieu voit le monde, tout ça. Ça, c'est un signe de maturité spirituelle. J'ai noté un petit commentaire ici, probablement de Wiersbe. La grâce n'excuse pas une spiritualité médiocre, mais elle apporte soulagement et assurance à ceux qui aspirent à la perfection. Donc, Matthieu, on ne peut pas s'asseoir sur « Ah, on est sauvé », puis ça, il faut faire un effort. Mais Dieu va encourager, va soulager, va aider ceux qui font un effort, justement. Le but, ce n'est pas d'être médiocre spirituellement. Il faut courir vers l'atteinte de ça. Même si on sait que la perfection, on ne l'aura pas. Quelqu'un pourrait dire « C'est un peu tannant », mais on va l'avoir un jour, mais au ciel. On aura un nouveau corps, on va être avec le Seigneur, on va être transformé. Nos pensées, on va penser différemment, on ne pensera même plus à des péchés, ce qui est extraordinaire. Mais il faut viser la perfection, sachant que dans le monde ici, on ne l'atteindra pas. C'est pour ça qu'on a besoin de bons exemples pour nous aider, justement. Puis Paul a consacré sa vie à Dieu. C'est pour ça que ça devient un exemple pour nous. Pas nécessaire d'y tourner, mais il y a un verset qui mentionne bien quand même la fin de sa vie à Timothée. C'est dans Timothée, mais à Paul, la fin de la vie à Paul. J'y arrive, je m'étais mis un petit post-it, mais bon, visiblement, il ne fait pas sa job. Dans 2 Timothée 4, verset 7, puis vous allez comprendre le verset que je vais lire, vous allez vous dire, ben oui, c'est évident, dans l'idée d'une course, Paul, la fin de sa vie, va dire à Timothée, puis on pense que c'est dans les dernières semaines, mois de sa vie, quand il a écrit ça à Timothée, il va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc, l'idée de la course, il l'a amené à terme. Il n'a pas atteint la perfection, mais il a couru dans le but de l'atteindre. Et pour ça, ça devient un excellent exemple pour nous. Puis il y a d'autres exemples de consécration dans la Bible, ou même aujourd'hui, de façon plus contemporaine, on pourrait penser à des personnes qui ne sont pas parfaites, mais qui consacrent leur vie au Seigneur et que ce faisant peuvent nous influencer positivement. Parce que le but de suivre un modèle, un exemple, c'est surtout pas d'en faire une idole. Paul dit pas, tu sais, si on avait une idole, entre guillemets, c'est le Seigneur Jésus. Le seul exemple parfait, c'est le Seigneur. Puis avec Paul, il veut pas qu'on l'imite de façon à l'adorer ou à... On se comprend, là, pas, regardez la vie que je fais, inspirez-vous de ça. Que ça devienne une influence positive. Il veut surtout pas que ça soit une idole, mais c'est pour nous montrer que, justement, des exemples de personnes qui consacrent leur vie au Seigneur, puis ça nous aide à nous-mêmes. Dans notre vie à nous aussi. Puis comme je disais, Paul, il est mature spirituellement, il admet qu'il n'est pas parfait, mais comme il court en fonction d'atteindre cette perfection-là, bien, ça peut nous inspirer aussi dans nos vies personnelles. Parce que la base pour être mature spirituellement, c'est de vouloir ressembler au Seigneur. T'sais, le Seigneur, il est décrit dans les évangiles, dans sa parole, c'est sa parole. C'est la vraie référence de maturité, vient de la Bible, vient du Seigneur Jésus, mais on peut avoir d'autres modèles aussi qui nous influencent dans la vie, puis je vais revenir à ça, mais il y a un paquet d'influences dans nos vies. Il faut choisir les bonnes. Fait que je vais y revenir aussi. Donc, comme je disais, le seul exemple parfait, c'est le Seigneur Jésus, mais des exemples comme Paul, je pensais au chapitre 11 de Hébreux, qu'on appelle le chapitre des héros de la foi, il y a un paquet de personnes qui ont consacré leur vie au Seigneur aussi, qui sont mentionnées. On peut penser, comme je disais, aussi à des personnes, déjà en 2025, des missionnaires ou autres, proches de nous peut-être, on se dit, ouais, sa vie consacrée, ça m'encourage. Parce que ça montre que suivre le Seigneur, quand on se fie à ces personnes-là, c'est pas simple. C'est pas simple de suivre le Seigneur. Fait que d'avoir des exemples concrets, des fois, ça peut nous inspirer certainement. Puis parce qu'on voit dans ces modèles-là, dans ces exemples-là de consécration, que c'est des hommes et des femmes comme nous autres. Que leur vie n'est pas simple. La vie de Paul n'était pas simple. Quand il écrit cette lettre-là, il était en prison ou du moins en captivité. Là. En tout cas, on pense qu'il était dans une maison louée, mais attachée avec un soldat 24 heures sur 24. Donc, c'est une forme de prison, on se comprend. Il n'y avait pas de liberté, si on veut. à part de recevoir peut-être des gens et tout ça. Mais il était brimé dans ses libertés, si on veut. Donc, sa vie n'était pas simple. Pourtant, il était joyeux, il était heureux, parce que sa vie était consacrée dans le Seigneur. Ça, c'est surprenant, c'est impressionnant. D'où l'inspiration que ça peut nous donner aussi d'avoir nous-mêmes. C'est des personnes comme nous autres, c'était pas facile pour eux, parce qu'ils consacraient tout ça. C'est une vie sans épreuve, ça n'existe pas. Donc, on peut s'inspirer de ces personnes-là, dont Paul. Comme je disais, Paul était en prison, il souffre pour le Seigneur, puis sa vie, d'un point de vue humain, ce n'est pas une vie qui est enviable, c'est une vie qui est difficile. Puis, humainement parlant, on n'aspire pas à être en prison. Si on l'est pour le nom de Christ, bien, espérons d'être joyeux, puis heureux dans tout ça, puis paisible quand même, parce qu'on sait que ce serait pour le Seigneur. Mais, humainement parlant, la vie de Paul n'était pas simple. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui probablement regardaient Paul, puis bon, ils ne voulaient pas le prendre en exemple peut-être, parce que bon, il était en prison, il était loin de l'église de Philippe à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes peut-être qui ne veulent pas le prendre en exemple. Et ce que Paul dit, c'est que sur le but de la vie, sur la consécration, Dieu va éclairer ces personnes-là aussi. Si on cherche c'est quoi le but de la vie, bien Dieu va nous éclairer. Fait que si on n'est pas d'accord avec Paul sur ce qu'est-ce que la consécration, mais Paul dit, bien, Dieu va les éclairer aussi, puis il fait avec amour, assurément. Là. Fait que si on prie comme chrétien, c'est quoi l'objectif de la vie, c'est quoi que je devrais faire comme vie chrétienne, comme course, bien, Dieu va les éclairer, normalement. Mais Paul indique une façon de faire, si on n'est pas d'accord sur le but de la course, si quelqu'un qui est réellement sauvé, bien, Dieu va les éclairer. Parce qu'en vérité, même si ça peut choquer, nous sortir de notre confort, le but de la vie, c'est effectivement d'être consacré à Dieu. Ce serait naturel d'avoir une vie dévouée à Dieu, puis même d'être prêt à mourir pour Christ. C'est facile à dire, je le comprends, mais si on regarde à ce qu'il a fait, même si on était entièrement dévoué, ce serait quand même peu par rapport à ce que le Seigneur a fait pour nous. D'où l'idée d'être dévoué. Puis je comprends que ce n'est pas simple, c'est facile à dire comme ça, mais d'où l'idée d'avoir des exemples aussi de personnes qui ont certainement eu des chutes, des moments difficiles, tout ça, mais c'est ça, ils étaient des hommes et des femmes comme nous, c'était pas simple, se sont relevés, puis ils ont été heureux et paisibles d'avoir une vie consacrée quand même si c'était pas des vies humainement parlant, enviables, si on considère ce que le Seigneur a fait pour nous, puis ce qui s'en vient pour nous, ce serait naturel, je peux pas dire naturel, mais ça devrait venir plus naturellement, disons, d'avoir une vie consacrée au Seigneur. Puis, comme je disais, c'est ce qui est mentionné ici. Si on n'est pas d'accord là-dessus, prions là-dessus. Si on, même les Philippiens, peut-être, avaient des questions, les personnes qui étaient là, mais auxquelles Paul s'adresse. Mais peut-être aujourd'hui, des fois, c'est quoi le but de ma vie? C'est quoi que je devrais faire, me consacrer? C'est quoi le dévouement? Bien, prions là-dessus. Dieu va nous éclairer. C'est le meilleur moyen de savoir c'est quoi le but de ma vie, qu'est-ce que je devrais faire, c'est quoi son plan pour moi. Puis, ce faisant, il faut rester unis, comme Paul nous dit, par exemple. On peut avoir des opinions, puis des fois, c'est sûr qu'on peut penser un peu différemment, mais il faut rester unis, s'encourager les uns les autres. C'est l'idée de marcher de même pas, ou courir de même pas, comme c'est écrit dans ce qu'on a lu. Donc, en toute chose, oui, il faut s'adresser à Dieu, Dieu va nous éclairer, mais restons unis quand même, sur l'objectif de la vie, la consécration, tout ça. Donc, marcher de même pas, c'est ce qu'il nous dit ici. On a une expression québécoise qui est bien connue, là, qui dit « faites ce que je dis ». Mais pas ce que je fais. Vous avez déjà entendu ça? Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Souvent, le Seigneur reprochait ça aux pharisiens, là, quand il disait qu'il était hypocrite. Ce qu'il disait n'était pas nécessairement tout mauvais, là, mais il ne mettait pas en pratique ce qu'il faisait souvent, ce qu'il disait souvent. Puis quelqu'un comme Paul, ça c'est un truc pour discerner qui est un bon modèle ou pas, mais Paul faisait les deux. Oui, il a prêché, il a écrit des textes, donc on peut dire que c'est une façon de dire des choses, mais sa vie montrait aussi sa consécration. Donc, sa vie, ses actions, ça démontre clairement une vie dévouée et consacrée à Christ. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que si on le prend comme modèle, comme influence, bien, ça va nous aider dans nos vies. C'est ce qu'il nous dit ici. Donc, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Quelqu'un comme Paul mettait en pratique ce qu'il disait. Fait que c'est un bon point pour quand on veut savoir qui peut m'influencer. Quelqu'un qui fait les deux, c'est bien. Puis, je fais une petite parenthèse aussi, je faisais allusion à la vie de Paul qui n'était pas simple. Pour avoir Paul comme exemple, ça prend le Saint-Esprit. Il faut être né de nouveau, parce que humainement parlant, ça ne fait pas de sens. Sinon, ce serait de la folie d'essayer de dire, ben oui, une vie comme Paul. Paul, il est en prison quand il écrit ça. Fait que ceux qui reçoivent la lettre dans l'église de Philippe, il est en prison. Fait que ce n'est pas une vie enviable. Personne ne souhaite d'aller en prison. Fait que ça prend un éclairage. Il faut avoir le Saint-Esprit dans nos vies pour tenter d'avoir une vie consacrée à ça, puis de prendre des hommes comme Paul, comme modèle, surtout au moment où il était là. Puis juste pour en mettre un peu sur le fait que Paul, même si c'est un excellent modèle pour nous, n'a pas une vie qu'on pourrait appeler de enviable humainement parlant, je vais juste lire quelques versets dans 2 Corinthiens qui nous montrent, vous pouvez y tourner, puis je vais lire quand même 6 versets dans Corinthiens. Parce que mon but de lire ces quelques versets-là, c'est de dire que, en fait, c'est au 2 Corinthiens 11, au verset 23. C'est que oui, c'est un exemple de consécration, mais ce n'est pas une vie qu'on envie non plus, si vous voyez ce que je veux dire. Non? Puis il y a plusieurs autres endroits où Paul, puis ce n'était pas pour se vanter, qu'il disait que des fois il y avait de la souffrance. Donc, dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 23, on ne lira pas ce qui était avant, là, mais ça commence comme suit. « Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore, par les travaux bien plus, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. » Il reste 2 versets qui en rajoutent encore. « J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » Ce qu'on voit souvent dans les épîtres. Donc, humainement parlant, la vie de Paul, on ne veut pas vivre ça, puis on ne sera pas appelé à faire la vie de Paul. Paul, il y avait son... Dieu avait un plan pour lui. Dieu a un plan pour nous. Mais pourtant, Paul, dans cette vie-là, était heureux, puis était paisible, il était en joie. Un des thèmes de base de Philippiens, c'est de se réjouir en toutes circonstances. Donc, c'est impressionnant, pareil. Donc, d'avoir des hommes comme Paul ou d'autres, c'est sûr que ça augmente nos chances de bien courir quand on regarde à ça, puis on se dit, ouais, lui, il a souffert, puis il était heureux, paisible là-dedans, puis joyeux, malgré tout, parce qu'il était consacré, puis regardait à ce qui s'en venait, à sa vocation céleste, donc à la destination, ce qui va arriver au bout, puis il se réjouissait là-dedans. Donc, ça devient un bon exemple pour nous. Dans la deuxième partie, s'éloigner des ennemis de la croix. Et là, je vais relire les versets 18 et 19. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Dans la première partie, on regardait les exemples à suivre. Dans la deuxième partie, c'est exactement l'inverse. C'est qui qu'il ne faut pas suivre. Donc, les ennemis de la croix, il faut fuir ça. On ne doit pas imiter les ennemis de la croix, mais il faut les cerner quand même. Donc, il y a des bons exemples, il y en a des mauvais exemples. Puis Paul, quand il en parle, puis c'est un thème, comme je disais, il se réjouit. Mais ça ne veut pas dire que, tu sais, dans la réjouissance, là, il marque qu'il en parle en pleurant. C'est sûr qu'il y a quand même des choses qui le touchent, le Paul. Il est pas, quand il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur, soyez toujours joyeux », il y a quand même des moments où ça fait partie des émotions d'un chrétien. Quand il pense au fardeau des églises et à certaines personnes, il dit en pleurant. Donc, quand même, il ne faut pas penser, quand on dit que sa vie n'était pas simple, il n'était pas complètement déconnecté de la réalité, Paul. Il pleure en parlant de ces personnes-là, au mal que ces personnes-là ça font à eux-mêmes, puis aux églises, aux assemblées. Parce que quand il pense à leur manière de vivre, penser, agir, des personnes comme ça qui sont dans l'assemblée de Philippe, dans les autres, puis peut-être encore aujourd'hui, ben Paul ne pense plus à ça aujourd'hui maintenant, mais ce serait probablement la même chose. Il y a peut-être des choses qui nous feraient pleurer quand on regarde comment certaines personnes agissent, puis peut-être même en pensant bien faire. Donc, Paul, c'est un fardeau qu'il a sur lui, puis ça le fait pleurer quand il pense à ça, parce que Paul est mature spirituellement, fait que quand il regarde d'un point de vue de Dieu, ces personnes-là, puis les églises, puis tout ça, surtout qu'il ne peut pas être présent, il est en prison, ça y amène un fardeau quand même. Puis il fait ça en pleurant parce qu'il juge spirituellement ces personnes-là, puis il voit bien que ces personnes-là sont probablement mortes spirituellement, mais en tout cas, ils causent beaucoup de troubles aux assemblées. Donc, c'est un lourd fardeau qu'il a. Il y a certaines personnes, les commentateurs, qui pensent que les personnes qui sont nommées ici, ça peut toucher des chrétiens. C'est sûr qu'avec une expression, leur fin sera la perdition, ça devient compliqué. Si quelqu'un voyait, puis il y a des commentateurs quand même vraiment bons qui pensent ça, c'est pas faux de penser, c'est une vérité. Quelqu'un qui est sauvé, mais qui n'a pas une vie consacrée comme il devrait, c'est une perte. Sa vie a été gaspillée un peu, fait que c'est pas faux. Pas sûr qu'on peut prendre ce passage-là pour appuyer ça. Par contre, je pense vraiment que ces personnes-là ne sont pas sauvées, ceux qui sont ici. Quoi qu'il en soit, c'est des personnes qui font partie de l'Assemblée de Philippe, de laquelle on parle. Je ne pense pas que ce soit des personnes sauvées, mais ils sont peut-être même responsables. Il y a peut-être même des rôles de responsabilité dans l'Église de Philippe. Donc, ils sont quand même bien en vue. Ils ont un rôle important. Puis, peut-être que ces personnes-là ne sont même pas conscientes, qui ne sont peut-être pas sauvées, puis qui causent du trouble. Donc, c'est des personnes qui deviennent dangereuses pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Parce que s'ils sont en responsabilité dans l'Église de Philippe, peut-être qu'ils tordent le sens des Écritures, peut-être des choses comme ça. Mais clairement, c'est un enjeu, puis ça cause du trouble à eux, d'abord, mais à toutes les églises, hein, parce qu'ils peuvent faire prendre des fausses routes aux assemblées. J'ai noté un commentaire aussi là-dessus. La tristesse de Paul tient à la damnation des ennemis de la croix de Christ, à leur influence destructrice sur l'Église et à la honte qu'ils attirent sur la cause de Christ. Donc, c'est sûr qu'une personne qui est un ennemi de la croix, on va y revenir un peu, c'est à cause du trouble, à eux-mêmes puis aux assemblées, c'est sûr. Il y a des gens qui ne sont pas dans l'assemblée qui causent du trouble, sont évidemment là, le monde et qui nous entoure. Mais même dans l'assemblée, des fois, il peut y avoir des personnes qui, consciemment ou non, sont des ennemis de la croix. C'était le cas à Philippe, il faut se méfier de cela aussi. Puis dans le contexte de l'Épître, il y avait deux groupes. Quand il parle des ennemis de la croix, il y avait deux groupes. Un groupe de Juifs puis de non-Juifs. Le groupe de Juifs, on les appelle souvent les judaïsants. Puis les non-Juifs, on les appelle souvent les faux docteurs. Les judaïsants, on les voit souvent dans les Épîtres parce que c'était un des enjeux qu'il y avait dans la jeune Église. C'était des Juifs. Les gens avaient connu donc ce qu'on appelle maintenant l'Ancien Testament, l'Alliance, les rites, le Temple, tout ça, mais eux autres, c'était leur quotidien. C'est un défi pour eux de passer à la Nouvelle Alliance. Fait que c'est pas surprenant que dans le livre des Actes, par exemple, on voit ça, que c'est comme un enjeu qui est vraiment fréquent. Donc, l'idée d'un judaïsant, c'était un peu l'idée de « faut que tu deviennes juif avant d'être chrétien. Il faut que tu sois circoncis, tu suives la loi, puis après ça, tu pourras être chrétien. » On n'a plus cet enjeu-là aujourd'hui, mais c'est un enjeu qu'ils avaient à l'époque. Mais ça, on sait que c'est faux. Dans plusieurs épîtres, on le voit dans Acte 15, entre autres, ce qu'on appelle le concile de Jérusalem, ça avait été réglé, cette question-là. Le Seigneur Jésus, il est entièrement suffisant et c'est le seul moyen pour être sauvé et rester sauvé. Ça, c'est sûr. Mais c'est un enjeu pour les judaïsants. Alors, souvent, ils rajoutaient des choses. Puis ça, c'est pas faux. Bien, pas faux. C'est faux. Mais c'est pas juste contemporain à cette époque-là, parce que même encore aujourd'hui, quelqu'un qui rajouterait quelque chose, une religion, par exemple, qui dirait que oui, la croix de Christ, oui, mais il faut rajouter des œuvres, par exemple, ce serait la même chose. Ce serait quelqu'un qui rajoute. Donc, c'est un peu comme l'idée des judaïsants qui voulaient rajouter des rites, la circoncision. Si quelqu'un rajoute au salut le besoin de faire des œuvres, fait autant fausse route et autant ennemi de la croix que les judaïsants, finalement. Même si des gens ne sont pas conscients qu'ils sont ennemis de la croix quand ils disent qu'il faut rajouter ça, bibliquement parlant, pour être sauvé, tu n'as pas besoin d'œuvres. Tu viens au Seigneur par la foi. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, les non-juifs, c'est les faux docteurs. Donc, beaucoup dans l'Empire romain, il y a beaucoup de non-juifs qui viennent au Seigneur, pareil, qui viennent dans les assemblées. Eux autres ne font pas nécessairement rajouter des rites, mais ils vont ajouter des choses aux Écritures, en enlever, tordre le sens un peu. Ça aussi, on voit ça aujourd'hui, évidemment. Là, n'importe qui rajoute quelque chose, qui enlève quelque chose aux Écritures, qui tord le sens, c'est un ennemi de la croix. Ça peut amener quelqu'un à faire fausse route, assurément. Ça peut même conduire quelqu'un à la perdition. Là. Ou amener quelqu'un à gaspiller un peu sa vie s'il est chrétien, mais qu'il est mal influencé. Ben, il va gaspiller son temps, puis Dieu ne pourra pas l'utiliser comme un instrument, comme il pourrait le faire si cette personne-là était consacrée au Seigneur. On a l'expression « ils ont pour Dieu leur ventre ». Pour les judaïsants, on peut le prendre assez littéral, là, c'est-à-dire qu'ils ont des restrictions alimentaires, ils rajoutaient des éléments de la dîme, là, donc dans leurs épices, tout ça, lavage des mains, etc., des restrictions alimentaires, qui deviennent comme des traditions d'hommes, puis qui deviennent plus fortes encore que Dieu lui-même, puis qui deviennent comme des idoles. Ça, c'est pas correct. Ça fait fausse route. Donc, c'est l'idée d'un peu, ils ont pour Dieu leur ventre. Pour les faux docteurs, on pourrait voir ça un peu plus large avec l'expression, entre autres, penser aux choses de la terre. Tu sais, souvent, on dit l'expression regarder son propre nombril, ou quelque chose comme ça. Bien, tu sais, son ventre, les choses de la terre, c'est une question d'égoïsme, pareil. Quelqu'un qui regarde, parce qu'on pourrait aller plus large un peu que juste le ventre, là, donc tous les plaisirs de la vie, de boisson, sexe, etc. Quelqu'un qui est centré sur lui-même, bien, c'est ça, c'est le même enjeu qu'on a. Donc, quelqu'un qui a pour Dieu son ventre ou qui pense aux choses de la terre, bien, je pense que c'est ces personnes-là auxquelles on fait référence. Puis, je ne sais pas comment c'était au premier siècle. Probablement que ça brassait, puis, tu vois, il y avait des enjeux, mais en 2025, l'accès à des plaisirs est probablement encore plus facile. Tout ce qu'on veut est trouvable, payable, quoi que ce soit. Tout n'est pas nécessairement légal. Beaucoup de choses sont immorales qui sont légales, mais c'est probablement beaucoup plus facile en 2025, l'idée de penser aux choses de la terre que ça l'était au premier siècle. En tout cas, c'est pas mieux, je crois pas, là. D'après moi, c'est de pire en pire. Plus facilement accessible aussi. Donc, l'idée des plaisirs possibles, penser aux choses de la terre, c'est un enjeu qu'ils avaient à Philippe, qu'ils ont encore aujourd'hui, qui guette tout le monde, qui peut nous distraire, qui pourrait amener quelqu'un à la perdition ou pourrait distraire un chrétien. Il ne faut pas attention à quoi on consacre notre temps, très certainement. Puis les ennemis de la croix, c'est pas juste, donc je reviens à ça, c'est pas juste des mauvaises personnes. Il y a des gens qui enlèvent ou qui rajoutent des choses aux Écritures, qui tordent le sens, c'est des ennemis de la croix, mais tout ce qui nous distrait du Seigneur sont un piège potentiel. Puis là, je reviens au fait qu'en 2025, on a accès à plein de choses. Il faut avoir une vie, on peut faire du sport, tout ça. Je pense que ça fait partie de ce que Dieu nous permet de faire. Mais il faut quand même être conscient du temps auquel on le consacre. Dans le sens que si quelqu'un passe sa vie, je ne sais pas, devant son écran, bon, on a un paquet de types d'écrans différents. Quand j'étais plus petit, c'est juste la télé. Maintenant, j'ai un écran dans mes poches. Il y a partout de l'écran. Fait que le temps qu'on passe là-dessus, c'est pas nécessairement tout mauvais, mais ça peut nous distraire du Seigneur pareil, fait que ça peut nous faire gaspiller notre temps aussi. Donc, il faut juste être conscient de ça. D'avoir du temps pour, comme je dis, des fois, se mettre le cerveau un peu à off, faire du sport, je pense que ça fait partie d'être en santé et tout ça, mais il faut juste faire attention que ça ne prenne pas toute la place, que ça devienne un peu comme des idoles. Puis d'autres caractéristiques aussi, là, qu'on pourrait penser des ennemis de la croix, c'est des gens qui pensent, tu sais, que leurs trésors, leurs promesses sont aujourd'hui. Plutôt que plus tard. Paul, s'il avait mis son espérance dans sa vie terrestre, il a échoué complètement. Sa vie était compliquée. Mais comme il la voyait avec ce qui s'en venait, c'est un succès. Il a achevé sa course avec joie, il était paisible parce qu'il s'en allait au Seigneur. Mais si quelqu'un croit qu'il ne se passe rien après, bien, il faut que tu aies du succès dans ta vie. Donc, mangeons, buvons et demain nous mourrons. Ça fait un sens quand tu n'es pas sauvé, mais pour quelqu'un qui est sauvé, ça n'en fait aucun. Donc, une façon de distinguer qui sont les ennemis de la croix, c'est si quelqu'un regarde son trésor est sur la terre plutôt qu'au ciel, ça peut. C'est un petit flag qui se lève disant que c'est peut-être pas justement un bon exemple. Leur ventre est important, mais là, je sens dire un jeu de mots, mais ils n'ont pas d'appétit pour la parole de Dieu. Quelqu'un qui ne lit pas sa Bible ou qui vit différemment, c'est un signe que c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas un bon modèle à suivre, qui n'est pas une bonne influence. C'est des gens souvent qui sont orgueilleux, qui s'auto-glorifient. Donc, tu sais, quand ils pensent à leur propre ventre, aux choses de la terre, bien, c'est ça. C'est des gens qui, peut-être, ont peu de barrières morales aussi. Il faut se méfier de ces personnes-là. Puis c'est ça, c'est des personnes qui ne regardent certainement pas tant aux promesses qui s'en viennent, qui regardent à aujourd'hui, maintenant. C'est pas ce qu'il faudrait faire. Donc, c'est des choses qui nous permettent de détecter c'est quoi une bonne influence pour nous, une mauvaise influence. Qu'est-ce qu'un bon modèle ou un ennemi de la croix, c'est des choses auxquelles on peut regarder. Puis, pas juste regarder aussi ce que les personnes disent. Hein. C'est quoi le comportement de la personne en dehors, par exemple, des prédications. Si on regarde quelqu'un qui serait, je sais pas, sur les réseaux sociaux, c'est quoi son style de vie? C'est quoi ses habitudes, ses fréquentations? C'est quoi ses valeurs? C'est quoi ses priorités? Des fois, ça peut être surprenant. Quelqu'un qui aurait une vie tout croche en dehors, peut-être que ce qui amène, il faut faire attention. Paul, il faisait ce qu'il disait. Donc, c'est un modèle intéressant pour nous. D'autres personnes, peut-être, qui, ouais, si regardent son style de vie, ses habitudes, puis tout, il faut lever un petit drapeau rouge ici, peut-être, dans certains cas. Assurément que si quelqu'un ajoute ou enlève quelque chose à la parole de Dieu, ça, en partant, ça va pas bien. Ça, en partant, c'est un autre drapeau qu'il faut lever aussi. Si on ajoute des œuvres, comme je disais tantôt, il y a de certains pays où l'évangile de prospérité est plus populaire, c'est fausse route aussi. Si on réduit la gravité du péché, ou le style de vie qu'on peut avoir après le salut, etc., c'est des choses qui tordent le sens un peu des Écritures. Ça, on fait fausse route. Si on ajoute ou si on enlève des choses. Donc, Paul, ce qu'il nous dit, c'est de bien considérer les influences qu'on va chercher. Qu'est-ce qui est nos bons modèles, puis qu'est-ce qui est nos mauvais modèles. Puis en 2025, puis il faut se rappeler, peu importe l'époque, on est influençable par nature. On est influençable, puis il y a des gens qui gagnent leur vie avec ça. Je ne sais pas s'il y en avait dans le temps de Paul. Il y a des influenceurs. Moi, je suis très peu sur les réseaux sociaux. Puis il y a du bon là-dedans aussi. Tu peux atteindre des gens que tu n'atteindrais pas différemment. Il y a du bon sur les réseaux sociaux, d'accord. Mais il y a du mauvais aussi. Puis il y a des gens qui gagnent leur vie en étant influenceurs. Bien oui, mais si on écoute ça, bon, c'est sûr que notre opinion va être influencée. On a des familles. Les familles pour des opinions, on ne peut pas vivre en dehors de nos familles, mais pour des opinions différentes qui peuvent nous influencer. Nos amis, nos collègues de travail, on vit dans un monde d'opinions. Puis, moi, j'avais fait le test, bien, je voulais apprendre un peu plus l'anglais. J'écoute, aux États-Unis, c'est frappant, les divisions politiques, là, vous le voyez. Si vous écoutez CNN ou Fox News, c'est sûr que ça influence ton esprit. Un est contre Trump, l'autre, tout ce qu'il fait est parfait. Mais c'est sûr que ça t'influence. Fait que tout peut nous influencer. Il faut en être conscient, puis il faut juste choisir ce qui est une bonne influence puis une mauvaise influence. Si on est constamment dans des mauvaises influences, c'est sûr que ça va changer notre schéma de pensée, ça peut nous distraire de Dieu, ça peut nous distraire de la parole de Dieu. Fait qu'il faut tout le temps... Le meilleur cadre, c'est la parole de Dieu. Mais après ça, dans toutes nos vies, nos familles, nos enfants, nos collègues de travail ont des opinions qui peuvent nous influencer, puis il y a un potentiel. Il faut juste être conscient. Il faut juste être conscient, puis nous-mêmes, être de bons modèles là-dedans, idéalement. Donc, soyons conscients du temps qu'on... Qu'est-ce qui nous influence? Est-ce que c'est positif ou pas pour nous? Parce que volontairement ou non, on est influencé. Donc, il faut faire attention à ça. La troisième partie, il faut regarder au futur, il faut regarder aux promesses, il faut veiller au retour du Seigneur. Et pour ça, je lis les versets 20 et 21. C'est un autre encouragement, ça, pour courir avec le Seigneur vers la vocation céleste. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. L'idée de veiller, c'est plus qu'attendre. Veiller, c'est un retour qui est imminent, qui pourrait arriver aujourd'hui. Donc, si on veille au retour du Seigneur, c'est parce qu'on est conscient qu'il peut arriver aujourd'hui. Puis ça devrait influencer. De un, il faut se tenir prêt, puis il faut être prêt à ça, et c'est un encouragement aussi. Le Seigneur pourrait revenir aujourd'hui, donc il faut être trouvé fidèle, il faut se réjouir de ça aussi. On ne veut pas être pris dans une situation compromettante quand le Seigneur va revenir. Donc, ça doit nous encourager, puis ça doit nous amener aussi à penser au futur, que toutes les épreuves, comme Paul, lui, il sait que... Ses épreuves vont être finies quand il va être avec le Seigneur. Fait que c'est un encouragement aussi. Il pense à ce qui s'en vient. Pensez au futur. Si on pense juste aux choses terrestres, quelqu'un qui n'est pas sauvé, qui regarde les nouvelles, puis tout ça, c'est pas chic. Là. Peut-être que ce n'était pas mieux dans le temps de Paul, mais là, avec tous les accès d'informations qu'on a, on voit bien que ça brasse dans le monde de plusieurs façons, guerre, famine, etc. Ça ne va pas bien. Il y a des tensions même entre tout le monde, division politique, etc. C'est pas chic. Là. Mais quand tu regardes au futur, on ne sera plus là-dedans. On va être bien. Donc, c'est un encouragement à tenir ferme aussi. Puis, on va avoir un nouveau corps. Ces épreuves-là vont être terminées. Puis, j'aurai atteint le but de ma vocation céleste. Peut-être qu'on va tous partir en même temps vers le Seigneur. Sinon, ça va être à la fin de nos vies. Fait qu'il y en a que ça va être plus tôt que tard. Mais quand on pense à ce qui s'en vient, ça doit être un encouragement pour tout. Puis, à ce moment-là, on va atteindre aussi, entre guillemets, là, mais c'est vrai, la perfection spirituelle, on va l'avoir parce qu'on aura un nouveau corps. On va être rendu semblable au Seigneur, un corps glorieux, etc. On va être en présence de Dieu. Donc, ça, quand on pense à ça, ça doit nous encourager, très certainement. Puis, le verset 20 que j'ai lu, ça nous rappelle que notre cité, elle est dans notre citoyenneté, elle est dans les cieux. Ça, c'est un encouragement aussi à se souvenir de ça. Puis, je lis une petite phrase, puis vous allez voir pourquoi je l'ai dit. Les Philippiens sont des citoyens romains, bien qu'ils vivent en dehors de Rome. Tout comme les croyants sont citoyens du ciel alors qu'ils vivent encore ici-bas. C'est-à-dire, oui, l'Empire romain était gros, puis les gens de Philippe qui ont reçu donc la lettre de Paul, cette lettre-là, sont citoyens romains, mais ils ne sont peut-être jamais allés à Rome. Mais nous, c'est pareil, on est citoyen du ciel, même si on n'est pas là actuellement. Notre citoyenneté était là, est là-bas, puis un jour, on va y être. Ça, c'est un encouragement aussi, très certainement, qu'en attendant, on est citoyen du ciel, même si on n'est pas là pour l'instant. C'est glorieux quand on pense à ça, c'est fantastique. Donc, Paul est joyeux, continue sa course, parce que justement, il regarde à la destination. Tantôt, je disais, c'est une vocation, il y a l'idée d'être prédestiné, un rôle, la destination, mais notre destination, c'est le ciel. Fait que ça, on pense à ça, ça nous encourage aussi. Donc, les promesses, les bénédictions célestes, non seulement il regardait ça, mais Paul, il dit au chapitre 1, « Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. » Ça aussi, il y a matière à réflexion. Si on est prêt à dire ça, c'est un encouragement. Ça veut dire qu'on est prêt à se dévouer et à être consacré dans notre vie, puis il y aura des épreuves. Ça ne sera pas simple, mais Christ est ma vie et mourir m'est un gain. C'est ce que Paul dit. Puis il était joyeux malgré tout. Il était paisible. Et voilà. Donc, je fais un petit résumé avant de passer aux leçons, parce que c'est quand même c'est pas le passage le plus simple, quand même. Mais je vais faire un petit résumé. Après ça, on va tomber dans des leçons et applications pour nous. Donc, les Philippiens, qui sont ceux qui recevaient la lettre, mais nous, aujourd'hui, on lit ça beaucoup d'années plus tard, mais ça nous touche aussi. On doit suivre des exemples. Là, il y a Paul, qui est un exemple, mais comme je disais, ça peut être d'autres exemples de consécration aussi. Vous en connaissez peut-être des missionnaires ou des gens qui aujourd'hui même, sont à l'œuvre pour le Seigneur, puis ça, c'est des bons exemples, bien, c'est parfait. Ça nous influence positivement à faire notre propre vie. Ce que Dieu a pour moi à faire, bien, tant mieux. C'est des encouragements pour que nous-mêmes, on soit plus consacrés. Mais à l'opposé, il faut reconnaître les ennemis de la croix. Ça peut être des individus, mais ça peut être des choses sur lesquelles on passe notre temps, etc. Des opinions, des choses comme ça, puis sont très nombreuses, ces choses-là. Ils peuvent être très subtiles, mais c'est dangereux. Il faut se méfier de ça. Et on doit veiller au retour du Seigneur, penser aux promesses, la bénédiction, les bénédictions qui s'en viennent, notre destination qui est le ciel. Donc, c'est les trois choses. Donc, on court vers un but. Et pour y arriver, bien, c'est ça. On regarde les bons modèles, on fuit les mauvais modèles, les mauvaises influences, puis on regarde à notre destination céleste. C'est ça l'idée. Puis juste avant de passer aux leçons encore, je lis un dernier verset dans Hébreu. En fait, c'est deux versets dans Hébreu. Peut-être, bien, si vous voulez y tourner, oui, je vais vous laisser quelques instants. Hébreu 12. Je le trouvais intéressant parce que ça résume en deux versets exactement la même pensée que Paul a ici. On ne sait pas c'est qui a écrit l'Épître aux Hébreux, mais l'auteur avait exactement la même idée en tête dans ces deux versets-là. Puis, juste avant de commencer dans le contexte d'Hébreu 13, tantôt je nommais les héros de la foi, sont nommés au chapitre 11. Fait que quand il arrive au début du chapitre 12, il fait référence aux héros de la foi, puis l'auteur va dire, puis vous verrez les trois parties du message, je vais relire une deuxième fois en vous les mentionnant, mais on les voit les trois. Nous tous, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprise. Il a souffert la croix, méprise l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. On voit les trois mêmes choses. Je vais juste les mentionner, les trois choses qu'on voit. Nous qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, c'est tous les héros de la foi du chapitre 11. Dans notre passage aujourd'hui, c'est Paul, mais il y en a un paquet. Ces personnes-là, c'est des bons exemples, des bonnes influences. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est les ennemis de la croix. On a même l'idée de la course, là, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Puis il y a aussi l'idée de la destination, ayant les regards sur Jésus. Donc, on a exactement les trois mêmes idées ici pour avoir une course, pour remporter le prix de la vocation céleste, pour être consacré. Mais ces deux versets-là aussi disent la même chose, là. Donc, avoir des bonnes influences, des bons modèles, fuir les mauvaises influences ou les ennemis de la croix, puis regarder à la destination. C'est les trois parties du message. Puis pour terminer avec des leçons, qu'est-ce que ça change dans nos vies aujourd'hui, je vais y aller sur des questions personnelles. Puis ils brassent un peu, là, je me rends compte, quand je l'avais fait à Sainte-Foy aussi, que je les trouvais intenses quand je les avais lus, que je les faisais tout seul chez nous, mais quand je les dis, finalement, c'est assez intense. Fait qu'il y a matière à réflexion. C'est des réflexions personnelles. C'est des cinq questions personnelles dans les trois parties du message. Donc, pour imiter des bons modèles, le but de Paul, c'est de se consacrer au Seigneur. Puis la question facile qui vient après, c'est quoi le but de ma vie? On a eu l'exemple de Paul, mais c'est quoi le but de ma vie? Donc, vous pourrez y penser cette semaine, parce que j'ai cinq questions, mais quand on y pense, quand même, ça peut faire réfléchir. C'est quoi le but de ma vie? Deuxième question personnelle, est-ce que je pourrais suggérer à quelqu'un d'être mon imitateur? Quand même, Paul, c'est ce qu'il dit ici, sans se vanter, il dit « Soyez mes imitateurs », parce que sa vie reflète ce qu'il dit. Est-ce que je pourrais dire ça moi-même de quelqu'un, « Sois mon imitateur » Question personnelle. Si des jeunes chrétiens m'imitent, de quoi aura l'air l'assemblée plus tard? Même genre de question. Mais si les gens ont comme modèle les plus vieux dans le Seigneur, dans l'assemblée, bien, s'ils suivent ce qu'on fait, ça va avoir l'air de quoi plus tard? D'où l'idée aussi d'être des bons modèles, parce qu'on influence les autres, c'est certain. Donc, ça, c'est le premier bloc, d'imiter les bons modèles ou d'être nous-mêmes des bons modèles. Le deuxième, s'éloigner des ennemis de la croix. La question personnelle, qu'est-ce qui m'influence et sur quoi je consacre mon temps? Des fois, les ennemis, ce n'est pas des individus, c'est ce que je fais de mon temps. Donc, qu'est-ce qui m'influence et sur quoi je consacre mon temps? Est-ce que c'est des choses qui m'approchent du Seigneur ou qui m'éloignent du Seigneur? Question de réflexion personnelle aussi. Puis le troisième bloc, c'était veiller au retour du Seigneur. La question est quand même assez simple. Est-ce que je veille au retour du Seigneur? Est-ce que je m'attends à ce qui arrive peut-être directement aujourd'hui? Est-ce que je pense à la destination? Et est-ce que ça influence ma vie et ça m'encourage? De penser à la destination, ce qui s'en vient, est-ce que ça m'encourage comme ça le faisait pour Paul? Ou est-ce que plutôt je suis très confortable dans mon monde puis que ça va bien puis que finalement je ne suis pas pressé de partir? Ça va bien ici, je suis content. Peut-être signe que mon trésor est plus ici qu'au ciel. Donc, c'est une autre question qu'on peut se poser. Donc, je le répète en rafale les cinq, là. C'est quoi le but de ma vie? Est-ce que je pourrais suggérer à quelqu'un d'être mon imitateur? Si les jeunes chrétiens m'imitent, de quoi aura l'air l'assemblée plus tard? Qu'est-ce qui m'influence et sur quoi je consacre mon temps? Et est-ce que je veille au retour du Seigneur et est-ce que ça m'influence? Donc voilà, c'était les parties, puis je termine juste avant de prier, pour courir vers le but, la vocation céleste, l'idée de gagner Christ, comme Paul dit, il faut avoir des bonnes influences, être des bons modèles ou avoir des bons modèles, il faut fuir les mauvaises influences, puis il faut regarder à la destination, retour du Seigneur, puis ce qu'on va voir plus tard. Donc c'est la compréhension du message, j'espère que ça peut transformer nos vies, avec les questions personnelles, ça, pensez-y cette semaine, vous allez voir, ça peut challenger pas mal. Sur ce, je vais prier. Seigneur, on te remercie pour ta parole, on te remercie de ce matin, on s'est rappelé de ton amour pour nous. C'est un amour insondable, on ne peut pas concevoir un tel amour, parce que nous-mêmes, on ne peut pas l'expérimenter entre nous, parce qu'on est pécheurs, mais on sait que tu nous aimes. Et Seigneur, on te remercie aussi par ta parole. Ta parole nous secoue un peu, dans le sens que Paul est un... trouvait sa joie dans une vie de consécration, de dévouement, même si sa vie était compliquée humainement parlant. Il était dans des souffrances, il était en prison. Dans certains cas, on a lu des choses qu'il a souffertes aussi. Mais ça ne demeure pas moins, Seigneur, que c'est un exemple pour nous, c'est une bonne influence pour nous. Ta parole est une bonne influence, la vie de Paul et de d'autres sont une bonne influence pour nous. Seigneur, aide-nous aussi à fuir les mauvaises influences. Des fois, on peut suivre... fuir certaines personnes quand on peut, des fois on ne peut pas. Des fois, ça peut être nos familles, des collègues de travail qu'on rencontre tous les jours, mais qu'on soit nous-mêmes peut-être pour eux des bonnes influences, des bons modèles pour les conduire à toi. Tu nous utilises dans ton plan, Seigneur, si on est disposé à le faire. Puis peut-être, Seigneur, c'est ce qu'on fait de notre temps qui n'est pas toujours super. Et nous, être conscients de cela aussi, Seigneur, c'est correct des fois de faire du sport ou d'autres choses, ça en prend. Ça fait partie des plaisirs de la vie, et tu veux qu'on se réjouisse dans le monde de ces choses-là, mais il ne faut pas que ça prenne ta place, Seigneur. Il ne faut pas que ça devienne des idoles, puis qu'on te mette de côté au détriment de d'autres choses qui prendraient nos places et qui feraient qu'on gaspille notre temps plutôt d'être consacré, Seigneur. Alors, merci pour ces exemples. Merci aussi pour les promesses qui s'en viennent. On est citoyens du ciel. On n'est pas conscient parfaitement de ce que c'est, parce qu'on n'est jamais allé au ciel. Mais on va l'être bientôt. Et en attendant, Seigneur, on veut que ça nous encourage, on veut que ta main soit sur chacun de nous, Et que vraiment, Seigneur, on soit des bons modèles, on fuit et on pense à la destination finale qui sera avec toi dans un nouveau corps bientôt. Tu dis toi-même, je viens bientôt. Et Seigneur, je veux aussi prier pour l'Assemblée de Sainte-Marie, que tu mettes ta main sur toute l'Assemblée, que ça demeure un flambeau aussi dans cette région et que tu fasses du bien à tous et chacun, Seigneur. Et on te remercie en toutes choses. Merci pour ta parole. Aide-nous à être consacrés et à te donner plus de place dans nos vies. On prie en ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen. Amen.